Good Morning Business, le grand entretien.
Le grand entretien ce matin, je reçois Alexandre Laousse, directeur adjoint de la Direction Générale de l'Armement. Merci d'être avec nous dans la matinale de l'économie. La DGA qui fête ses 65 ans, elle a été créée en 1961 sous le général de Gaulle. Est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement son ampleur et sa mission ?
Bonjour Sandra Gandouin, ravi d'être là ce matin. Alors la DGA, c'est 10 500 femmes et hommes qui travaillent, je dirais, pour leur première mission, pour équiper les forces, donc nos armées. Tous les matériels que vous allez voir lors du défilé aujourd'hui, les matériels volants, hélicoptères, avions, matériel roulant, ils ont été conçus, développés, testés, affinés, validés et livrés aux armées par la DGA. La DGA, sur les 10 000, les plus de 10 000 personnes, c'est 7 000 personnes qui sont des experts techniques. Sébastien Lecornu, notre Premier ministre, disait souvent « La DGA, c'est le dernier bastion des ingénieurs au sein de l'État ». Et donc, la DGA, elle défile cette année pour la quatrième fois. Petite spécificité cette année, elle défilera derrière un drapeau qu'elle a reçu des mains de notre ministre le 30 juin. Ce drapeau, c'est à la fois la reconnaissance des 65 ans, vous l'avez dit, de service de la DGA au service de la France et de notre souveraineté. Et c'est aussi un symbole, la DGA de combat qui est regroupée derrière son étendard et qui prend sa responsabilité dans le réarmement de la France et de l'Europe.
Justement, la ministre des Armées dit que cette DGA se transforme en DGA de combat, ça veut dire quoi? Ça implique quoi sur le terrain pour les années à venir? Est-ce qu'il va y avoir un changement de stratégie, un renforcement, une rapidité?
Alors, la DGA de combat, je dirais, c'est trois points. C'est d'abord aller plus vite, forcément, lié au contexte actuel. Donc, pour aller plus vite, il s'agit d'intégrer l'innovation plus vite que l'adversaire. C'est ce que nous apprend le conflit en Ukraine. Pour ça, on fait du développement agile. Donc, on vise pas forcément un produit parfait, mais un premier produit qu'on va développer très vite et qu'on va faire évoluer au fur et à mesure. On va faire du travail intégré, on va rapprocher nos experts de terrain avec les spécialistes opérationnels des forces armées. On va travailler en équipe intégrée pour accélérer la prise de décision. Pour ça, on crée des centres en région où on va se mettre au plus près des utilisateurs et des armées. Et puis, une démarche particulière donc pour les technologies à cycle court. La DGA de combat, c'est aussi produire du volume, de la masse, donc produire plus. Pour ça, on donne de la visibilité. C'est la loi de programmation militaire qui a été réabondée de 36 milliards. C'est aussi recourir à des industriels de la grande série, l'automobile, l'électronique grand public, et qui ont l'habitude de produire beaucoup. Et puis, c'est encore plus d'exigence sur les prix, parce que l'État nous confie beaucoup d'argent. Il faut que ça donne beaucoup, beaucoup plus d'équipement. Et donc, vous voyez, la DGA de combat, c'est l'équilibre entre la technologie pour continuer à dominer l'adversaire et la masse pour pouvoir le saturer.
Ça fait plusieurs années qu'on dit que la défense européenne ne va pas assez vite. Alors la France est en tête de cette stratégie. Emmanuel Macron termine là son quinquennat. C'est son dernier défilé du 14 juillet. De quelle façon concrètement l'armée a changé ces 10 dernières années? On voit là dernièrement avec les conflits à l'extérieur qu'on développe des stratégies défensives. On en a parlé hier, mais Emmanuel Macron dit qu'il est prêt à défendre la paix au prix du sang s'il le faut. On voit bien qu'on est dans un basculement là.
Alors, on est en plein réarmement. Il y a eu un plan lancé en 2022 qui s'appelait « Se préparer à l'économie de guerre ». Les résultats nationaux, ils payent. On a quand même des cadences qui ont été augmentées par x2 à peu près partout, x3. On a obtenu des x4 et des x6. Donc, c'est quand même des choses assez importantes. Se préparer, c'est aussi comprendre qu'il faut investir sur l'industrie. On investit à la fois sur les stocks. Les munitions, on va passer 6 milliards de commandes sur les munitions cette année. On accélère, on a regroupé toutes les commandes qui étaient égrenées au fur et à mesure des années de la loi de programmation militaire. On les a toutes regroupées, on va tout passer cette année. Mais c'est aussi être capable de faire du flux pour régénérer les munitions. Et donc, il y a des investissements prévus sur l'industrie. Évidemment, les évolutions, c'est les technologies à cycle court, des drones partout pour toutes nos armées. La protection contre les drones de l'ennemi, lutte anti-drone également. Et puis, la guerre électronique, les enseignements en Ukraine, mais aussi au Moyen-Orient, c'est le brouillage du théâtre. Donc, il faut être capable d'opérer en environnement brouillé.
Est-ce que les industriels dont vous parliez, ils vont défiler d'ailleurs des industriels là aujourd'hui, et c'est pas souvent que ça arrive, ça veut dire que ça marque quand même ce tournant dont je parlais. On voit que les Européens, John Cockerill, Renault, par exemple, se mettent en action pour développer des engins de guerre, des drones, par exemple. C'est vers cela que les industriels vont, une activité civile habituelle, et aussi à un moment basculer une partie de leur activité, de leur production vers un effort de guerre.
Alors, Une des grandes forces de la Direction Générale de l'Armement, c'est qu'on connaît très bien le tissu industriel. On les suit depuis longtemps. Et en fait, la, notre base industrielle de défense, vous le savez, il y a les 9 grands maîtres d'œuvre que tout le monde connaît, Dassault, Safran, Naval Group, enfin, je vais pas tous les citer. Mais derrière, il y a 4500 entreprises, des petites, moyennes entreprises, entreprises très intermédiaires. En fait, elles sont déjà ce qu'on appelle duales. Elles font beaucoup de civils. Donc, notre base industrielle actuelle, je dirais, en général, elles font 80% de leur chiffre d'affaires dans le civil, seulement 20% dans le militaire. Donc, on a déjà l'habitude de travailler avec des entreprises qui ont, je dirais, un pied dans chaque univers. Là, ce qu'on va chercher aujourd'hui dans l'industrie civile, il y a deux choses. Il y a les industriels eux-mêmes qui souhaitent venir dans ce secteur pour nous soutenir. Et puis, on va chercher certaines compétences. Je citais l'industrie de grande série, où bah, certains industriels ont l'habitude de faire des très, très grandes séries, peuvent apporter leur expertise à nos entreprises. Je vous cite juste un exemple. Un bureau d'études de l'automobile est venu prêter assistance à notre demande à un droniste. Et en revoyant les plans de son drone, il lui a permis de simplifier la conception. Quelque chose qu'il faisait en 6 pièces, il a dit « vous pouvez le faire en une seule ». On a gagné de la cadence grâce à cette expertise.
De la simplification, des commandes, on sent qu'on va dans le bon sens. Pourtant, l'Europe se réarme en ordre dispersé. On a évidemment, et on en parle beaucoup sur ce plateau, le dossier du SCAF. C'est problématique, chacun protège ses usines, ses champions. Est-ce que vous sentez que ça va faire ça un petit peu sur tous les dossiers ou que finalement la coopération européenne, elle va quand même se mettre en place mais au vu du contexte international qui devient pressant?
Alors, le SCAF, l'arrêt du SCAF, c'est dommage pour l'Europe. Le président de la République l'a dit encore hier dans son discours à Brienne. Pour la France, nous, on va dérouler parce qu'on sait faire des avions de chasse et on va continuer à chercher des partenaires, d'autres partenaires, parce qu'on reste dans l'ADN de la construction européenne. Alors, vous avez raison, coopérer, c'est important pour, je dirais, 3 raisons. Déjà, la France, dans le cas d'un conflit, si ça devait arriver, elle sera jamais seule. On sera toujours en coalition. Donc, il faut que nos matériels puissent communiquer avec ceux des autres. Il faut qu'on puisse être interopérable, comme on dit. La deuxième raison, c'est que les budgets de l'Europe dans la défense sont en train d'augmenter et il va y avoir une grosse marche à partir de 2028. On va faire des budgets qui vont peut-être être x4 ou x5 par rapport à aujourd'hui. Donc, il faut se mettre à plusieurs pour les dépenser au mieux dans le bien collectif. Et puis, troisièmement, il faut qu'on bénéficie des capacités industrielles européennes. Le plan national dont je parlais tout à l'heure, il a porté ses fruits, mais il n'est pas encore suffisant. Le président l'a dit également hier. Et donc, il faut qu'on puisse bénéficier des entreprises qui ont encore des capacités de production ailleurs. Donc, la coopération, on n'a pas le choix, il faut y aller. Peut-être qu'on va coopérer autrement. Évidemment, il y a les partenariats, comme on faisait avant, des coopérations sur des projets. Il y a des partenariats stratégiques. La Belgique a fait le choix de calquer son armée sur l'armée française. Ça veut dire les mêmes matériels. Les officiers sont formés chez nous, donc même formation. Ça veut dire des achats sur étagère. On a fait le choix, nous, la France, d'acheter un avion de surveillance aérienne à la Suède, le Global Eye. Pourquoi ? Pas parce qu'on ne sait pas le faire, mais parce qu'il est prêt. Il existe, il est là et on en a besoin maintenant. D'ailleurs, dans l'autre sens, la Suède a fait le choix des frégates françaises pour la même raison, parce qu'elles existent. Et puis, je dirais, dans la coopération, on est en train de travailler sur ce qu'on appelle les chaînes de sous-traitance croisées. Prendre des sous-traitants, je dirais, d'autres pays européens pour travailler en plus de nos sous-traitants et de nos industries françaises au profit de nos produits. À l'inverse, on accepte que des PME françaises vont aller travailler au profit de produits européens de nos partenaires. C'est un peu coopérer autrement pour être à l'heure du rendez-vous.
Oui, on va assez vite, justement, parce que là, cette cérémonie aujourd'hui est placée sous le signe du réveil stratégique de l'Europe sans les États-Unis. On ne peut plus compter réellement sur leur protection. Est-ce qu'on est prêt, au final, si un conflit éclate à nos portes dans les mois, dans les années qui viennent?
Alors, je dirais, on n'a jamais été aussi prêt, puisque, un, on accélère. Deux, on a prévu des tas de dispositions. On a des stocks de précautions sur des pièces qui permettent aussi d'accélérer plus vite. On a des commandes, comme je disais tout à l'heure, massives. On a une industrie qui est prête. On va chercher d'autres fournisseurs. Évidemment, on n'est jamais suffisamment prêt. Donc, on continue d'accélérer. Je pense que c'est un peu toute l'idée du plan DGA de combat. On fait ce qu'il faut pour être agile, rapide et être prêt. Puisque sur les produits agiles, comme j'aime bien le dire, l'idée, ce n'est pas d'acheter non plus des stocks aujourd'hui qu'on va mettre quelque part et puis qui seront obsolescents dans 6 mois, c'est un stock suffisant et des capacités industrielles qui peuvent accélérer quand on en a besoin.
Merci Alexandre Laouze d'être venu sur notre plateau, directeur adjoint de la Direction Générale de l'Armement. Merci.